nos services francophones vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, édition du lundi 14 juillet. Chérubin, Gabi Torsil et Claire Morin-Gibourg en votre compagnie. Bonsoir Claire.
Bonsoir Gabi.
Au sommaire ce soir, RCA face à la discorde que crée le prochain forum de Brazzaville. Le Premier ministre tente de rassurer.
Vous savez, le forum de Brazzaville entre dans un processus global de recherche de la paix dans notre pays.
André Nzapayeke.
La France met fin à l'opération Serval au Mali. À Gao, la nouvelle inquiète.
Moi, quand même, je souhaiterais que la France reste parce que jusqu'à preuve du contraire, on est en insécurité.
On écoutera quelques réactions venant du Nord-Mali.
Le Conseil de sécurité de l'ONU autorise l'envoi d'aide humanitaire en Syrie sans l'approbation du gouvernement de Bachar al-Assad.
Nouvelle escalade dans la crise israélo-palestinienne. Israël annonce avoir abattu un drone venant de Gaza.
La romancière sud-africaine Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature en 1991, est décédée. Nous parlerons un peu de sa carrière et son soutien à la lutte anti-apartheid.
Et dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, l'Allemagne est en fête. Mais pour les autres participants, c'est l'heure des bilans et des changements.
D'abord, le journal.
En RCA, le prochain forum de Brazzaville sème la discorde à Bangui. Pour rassurer, le Premier ministre André Nzapayeke indique que cette réunion entre le processus global de recherche de la paix, le point avec Idriss Fall.
André Nzapayeke veut couper court à la rumeur. Pour le chef du gouvernement, Brazzaville ne sera pas l'occasion d'imposer quoi que ce soit.
Vous savez, le forum de Brazzaville entre dans un processus global de recherche de la paix dans notre pays. Le but de Brazzaville, comme certains le craignent, n'est pas d'aller imposer quoi que ce soit. Le contenu de ce qu'on va discuter à Brazzaville sera également un contenu national. D'ailleurs, tout sera discuté ici, avant même qu'on aille.
Clément Anissé Guillama Massogo, porte-parole de la présidence, est allé dans le même sens ce matin en indiquant qu'il sera juste question de jeter les bases d'un prochain dialogue intercentrafricain à Bangui. Depuis l'annonce de ce forum, classe politique et société civile sont fermement opposées à sa tenue à Brazzaville. Elles devront se réunir demain à Bangui pour décider de leur participation ou non. Par ailleurs, sur le plan éducatif, plus de 3 900 élèves du primaire ont composé ce lundi le concours d'entrée en 6e dans 3 centres de Bangui.
Par ailleurs, à Bangui, une manifestation d'étudiants a été dispersée par la police de la MISCA.
Oui, c'est à coups de gaz lacrymogène que la police de la force africaine MISCA a dispersé ce lundi près de 200 étudiants de l'université de Bangui qui manifestaient devant la présidence pour la reprise des cours. Les étudiants dénoncent la grève des enseignants du supérieur qui paralyse les classes depuis un mois. L'université de Bangui a rouvert ses portes en février 2014.
À la suite des violents combats qui ont eu lieu dimanche autour de l'aéroport de Tripoli, la mission de l'ONU en Libye a annoncé aujourd'hui qu'elle avait évacué temporairement son personnel de Libye pour des raisons de sécurité. L'aéroport de Tripoli est fermé pour 3 jours.
En Afrique du Sud, le puissant syndicat de la métallurgie, NUMSA, a durci son mot d'ordre de grève. Lionel Gaïma.
Selon l'AFP, les métallos du syndicat NUMSA ont refusé hier les propositions du patronat. Les ouvriers réclamaient une augmentation de 15% de leur salaire. Dans les marchandages, le syndicat est descendu à 12% pour ce qui a paru déraisonnable pour le patronat qui offrait moins de 10%. Faute d'accord, Irvin Jim, secrétaire général du syndicat, a annoncé hier que la grève continue. Elle avait été lancée le 2 juillet. 220 000 travailleurs, plus de 10 000 sociétés sont affectées par ce débrayage. Ce mouvement émaillé de violence et d'intimidation désespère les investisseurs. Le pays sort à peine de 5 mois de grève dans les mines de platine. Et ce mouvement dans la métallurgie a aussi un aspect politique. NUMSA a coupé les ponts avec l'ANC et milite pour un virage plus à gauche de l'économie sud-africaine.
La romancière sud-africaine Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature en 1991 et engagée dans la lutte contre l'apartheid, est morte dimanche à l'âge de 90 ans dans sa maison de Johannesburg. Née le 20 novembre 1923, fille d'immigrants juifs venus d'Europe de l'Est, elle a toujours refusé de quitter le pays, même aux heures les plus sombres de l'apartheid.
Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette émission. Les budgets consacrés à l'éducation seront en hausse d'au moins 50% dès 2015 en Afrique francophone, ont annoncé les 27 ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie réunis à Abidjan. Une mesure cruciale destinée à enrayer la dynamique de sous-développement selon leur communiqué commun. D'après l'UNICEF, plus de la moitié des enfants non scolarisés de la planète vivent en Afrique, soit 33 millions, dont la majorité des filles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après une semaine de bombardements sur la bande de Gaza, l'armée israélienne dit avoir abattu un drone venu de Gaza, Bagassikoura.
Selon un porte-parole de l'armée israélienne, le drone survolait Ashdod entre la bande de Gaza et Tel Aviv lorsque les forces israéliennes l'ont frappé avec un missile Patriot. Israël a aussi indiqué que les militants du Hamas ont tiré plusieurs roquettes à partir de Gaza ce lundi. La nuit dernière, l'aviation israélienne a visé des dizaines de cibles palestiniennes dans leur campagne pour stopper les salves de roquettes. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, exige que les deux camps prennent des mesures immédiates pour mettre fin au combat. Les responsables palestiniens rapportent que plus de 170 personnes, la plupart des civils, ont été tuées depuis le début de l'offensive israélienne mardi dernier.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé ce lundi les convois humanitaires destinés à la Syrie à passer par les frontières extérieures du pays sans l'accord de Damas, ce qui permettra d'aider 1 million de civils dans des zones tenues par l'opposition. Une résolution en ce sens a été adoptée à l'unanimité. Les passages en Turquie, en Irak et en Jordanie sont autorisés, mais cette autorisation est valable pour 6 mois et devra être renouvelée par le Conseil de sécurité.
En Ukraine, la tension continue de monter entre les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne. Les affrontements ont fait des dizaines de morts, rien que ces dernières 24 heures. Sarah Diaby.
9 civils ont été tués dans la périphérie de Donetsk, fief des rebelles dans l'est de l'Ukraine. 6 personnes ont été tuées à Lugansk et 8 autres à Marinka. Kiev évoque 3 militaires tués et 2 blessés lors d'échanges de tirs dimanche matin. Les forces gouvernementales tentent de récupérer les territoires contrôlés par les séparatistes pro-russes. Par ailleurs, les rebelles pro-russes disent avoir abattu un avion de transport militaire ukrainien. L'armée ukrainienne a indiqué avoir perdu contact avec un de ses appareils qui survolait la région de Lugansk. Le président ukrainien Petro Porochenko a accusé les officiers russes de combattre aux côtés des rebelles. De son côté, Moscou menace Kiev de conséquences depuis la chute d'un obus dans un village russe qui a fait un mort.
Rencontre aujourd'hui entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif pour tenter d'identifier les possibilités de progrès vers un accord permanent sur le nucléaire iranien. Hier dimanche, une nouvelle série de négociations entre l'Iran et le groupe 5+1, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, s'est soldée par un échec. Les négociations doivent s'achever dans quelques semaines.
La défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde de football a été accueillie à Buenos Aires par des heurts entre jeunes et policiers près de l'obélisque. Ce qui, à l'origine, était un rassemblement pacifique, a vite dégénéré peu après la fin du match. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. 50 personnes ont été arrêtées.
En France, c'est le 14 juillet, anniversaire du début de la Révolution de 1789. Le président François Hollande a pris part au défilé traditionnel sur les Champs-Élysées, puis s'est exprimé dans une interview télévisée, notamment sur son programme économique.
Il y aura un effort supplémentaire pour les catégories moyennes, même si beaucoup de Français se considèrent dans les catégories moyennes, mais il est légitime que celles qui ont été beaucoup touchées ces dernières années puissent être finalement récompenser. On fera en sorte qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de Français qui payent moins d'impôts.
La fête de la Bastille est la plus importante dans l'Hexagone et elle donne lieu à des célébrations à travers le pays. Les feux d'artifice ce soir à la Tour Eiffel ont pour thème la guerre et la paix.
La Cour suprême de l'Inde a reporté l'exécution de 2 hommes impliqués dans le viol collectif et le meurtre en décembre 2012 d'une étudiante de 23 ans à New Delhi. Selon l'avocat des 2 accusés, la sentence sera suspendue en attendant une décision en appel. 2 autres hommes condamnés à mort dans cette affaire ont également fait appel. Un autre s'est suicidé en prison.
Le sergent américain Bo Bergdahl, libéré récemment par les talibans afghans après 5 ans en captivité, a repris le service actif dans l'armée de terre des États-Unis. Bergdahl a fait l'objet le 31 mai d'un échange de prisonniers qui a soulevé un tollé au Congrès américain. Selon un porte-parole de l'armée, le soldat a achevé la dernière phase de sa réintégration et sera affecté à la base militaire, à une base militaire au Texas, dans le sud du pays. Voilà, c'est tout pour le journal. Il est 18h40 en temps universel, 14h40 ici à Washington. Le Monde aujourd'hui, chez Robin Dorcy, Léclair Morin-Gibourg, en votre compagnie.
Janvier 2013, juillet 2014, voilà plus d'un an que la force Serval est présente au Mali. Les autorités françaises annoncent la fin de l'opération Serval au sein des populations de Gao qui ont vécu l'occupation. Parmi les jeunes qui ont de l'emploi avec la force Serval, c'est aujourd'hui l'inquiétude. Boubacar Touré explique.
À l'annonce de la fin de l'opération Serval et la mise en marche de l'opération Barkhane par les autorités françaises, dans la région de Gao, les populations s'inquiètent. Awassam, leader de femmes au quartier Sani.
En tant que natif de Gao, femme leader, citoyenne du Gao, moi je souhaiterais que la France reste parce que jusqu'à preuve du contraire, on est en insécurité. Et les djihadistes ne sont pas loin de nous, ils sont alentour de tout Gao. Et je pense que la France a les moyens, plus que même l'aménagement, pour notre sécurité. Notre souhait est qu'il reste.
Amadou Sarr, responsable de jeunes patrouilleurs, se fait déjà des soucis pour ces jeunes à qui la force Serval a donné de l'emploi. À cela s'ajoute l'insécurité autour de la ville.
Je vous avoue que la nouvelle, elle est inquiétante. D'autant plus que si vous voyez ce que Serval a eu à faire à Gao, si je prends un seul point essentiel qui est l'emploi des jeunes qui nous a vraiment permis de vivre. Tranquille quand même. Moi, je ne peux pas partir, mais il y a beaucoup de jeunes de Gao qui sont en train de travailler au camp, qui peuvent s'occuper aujourd'hui de leur famille. Si aujourd'hui nous apprenons le départ de Serval, c'est inquiétant. Le mot Serval, c'est une habitude pour la population de Gao. L'appellation Serval seulement rassure. Même si on change d'appellation, ça ne serait pas bon. Même si la mission Serval doit rentrer, qu'une petite partie de Serval reste.
Que les forces françaises prennent en charge la sécurisation de tout le Sahel est plus rassurant. Mais avant, les populations qui ont vécu l'occupation doivent comprendre l'intérêt de cette nouvelle disposition. C'est ce que pense Idrissa Sarongo, fonctionnaire à la retraite au quartier Château.
Moi, je pense que quand on prend l'ensemble du Sahel, c'est plus rassurant par rapport à ce que nous avons vécu. Ce n'est pas seulement Gao, Tombouctou, Kidal. C'est l'ensemble du Sahel qu'on doit sécuriser. Les gens s'étaient habitués à la présence de la force Serval. Certaines activités ont démarré. Si maintenant on dit que cette force-là doit partir, mais les gens vont se poser beaucoup de questions. Parce que tout simplement, c'est l'angoisse qui s'installe par rapport toujours à ce que les gens ont vécu. Le transporteur va se poser la question. Est-ce que je peux faire mon transport normalement? Le commerçant qui vend ses produits au marché, il va se poser la question. Est-ce que j'aurai des produits? Même si j'ai des produits, est-ce que je pourrais les vendre? Parce que le tissu économique, ça avait démarré un peu. Maintenant, cette force qui a rassuré les gens, cette force-là va partir. Les gens vont se poser beaucoup de questions.
Gao, Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
L'épidémie de fièvre Ebola qui frappe depuis 4 mois la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria reste d'une gravité sans précédent. La maladie continue de s'étendre du fait qu'elle reste mal comprise des populations. C'est ce que font valoir l'Organisation mondiale de la santé et les ONG telles que Médecins sans frontières, Claire.
Et pourtant, rappelle MSF, si un malade est traité rapidement, ses chances de guérir sont excellentes. On écoute le docteur Bart Janssens, directeur des opérations à MSF.
Il est très important aussi que, avec notre expérience, quand on peut trouver les personnes infectées en début de période de maladie, maintenant on a une forte idée qu'on peut avoir plus de chances de les faire survivre. Donc cela aussi nous pousse beaucoup pour avoir la capacité soit de rechercher les nouveaux malades, soit de les prendre en charge rapidement dans les conditions correctes.
Sinon, le taux de mortalité du virus à fièvre hémorragique Ebola de type Zaïre est d'environ 90%.
90%, c'est le chiffre qui est connu. De toute manière, il est très élevé. Actuellement, nous avons un chiffre, dans toute l'épidémie, 70 à 80%. Donc, c'est clair que cette épidémie est en train de nous apprendre encore plus sur la prise en charge d'une maladie de l'Ebola.
En ce qui concerne la prise en charge, donc, la préoccupation primordiale reste d'identifier les personnes avec qui les malades ont été en contact, puisque le virus est hautement contagieux.
Le virus est contagieux, certes. Il n'est pas si contagieux que, par exemple, une grippe. Donc, c'est vraiment le contact direct entre un malade ou une personne décédée d'Ebola qui permet de transmettre cette maladie. Le grand problème, évidemment, c'est une fois les personnes ont été infectées, leur chance de survie est pas très grande, c'est-à-dire que la mortalité est très élevée. C'est ça ce qui rend cette maladie, cette épidémie si dramatique.
Avez-vous un conseil à donner?
Il est très important que dans toutes les communautés affectées par l'épidémie, les messages doivent être bien transmis. Il est très important que chaque personne malade dans cette zone vienne se faire diagnostiquer rapidement pour être prise en charge rapidement. Et de l'autre côté, que certaines pratiques dangereuses pour la transmission, comme le contact direct avec les malades ou les personnes décédées, doit être limité au maximum.
Est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire appel aux services sanitaires pour qu'ils disposent de la dépouille du défunt?
Tout à fait. Et cela est le cas dans chaque partie du monde où une épidémie d'Ebola sera déclarée. La gestion des corps des personnes décédées doit être faite d'une manière extrêmement prudente pour éviter toute nouvelle transmission de la maladie vers d'autres.
Le docteur Bart Janssen, directeur des opérations à MSF, il était joint par Camille Grosdidier.
Nadine Gordimer a attiré la révérence. La célèbre romancière sud-africaine est morte ce dimanche à l'âge de 90 ans. Elle a reçu le prix Nobel de littérature en 1991. Auteure de 15 romans et de plusieurs nouvelles, elle a mené un combat sans répit, on peut le dire, contre le régime de l'apartheid. On écoute le témoignage de Souleymane Bachir Diagne, professeur de littérature à l'Université de Columbia.
C'est une femme de lettres exceptionnelle et le prix Nobel qui a salué son œuvre ne s'est pas trompé là-dessus. Donc, il y a la créativité extraordinaire de cette femme. Et deuxièmement, il y a bien entendu son militantisme. Quand la nouvelle est tombée, tout le monde a tout de suite pensé à nouveau à Mandela. Évidemment, on sait qu'elle s'est tenue aux côtés de l'ANC, qu'elle s'est engagée aux côtés de l'ANC et qu'elle a été une amie très chère de Mandela.
Comment s'est actualisé son engagement dans la lutte contre l'apartheid?
Ces romans montrent un peu quelle est la démarche intellectuelle qui a été la sienne lorsqu'elle s'est engagée aux côtés de ceux qui luttaient pour la libération de l'Afrique du Sud et pour la démocratie en Afrique du Sud. Elle raconte souvent dans ses romans l'histoire de personnes, de femmes blanches qui, au départ, ne sont pas politiques du tout. Je pense à un roman comme A World of Strangers, un monde d'étrangers, où quelqu'un qui est apolitique au début s'engage progressivement parce que cette personne réagit contre les injustices et a des amis noirs, etc. Et donc, c'est la même chose qui est arrivée à Nadine Gordimer. Il était prédisposé, je crois, familialement. Sa mère, elle-même, souvent dans sa biographie, s'opposait à l'injustice qu'il y avait autour d'elle. Mais son engagement est une manière pour une intellectuelle de se rendre compte que la libération contre l'oppression d'une race par une autre, en fait, c'est la libération de tout le monde. Quelqu'un qui est blanc en Afrique du Sud a autant intérêt, finalement, quand il s'agit de la liberté, à l'émancipation que quelqu'un qui est noir. Donc, dans son engagement, c'est pas simplement une générosité vis-à-vis d'autres, c'est aussi l'idée que je ne peux pas être libre si tout le monde ne l'est pas. Et je crois que c'est cette idée très forte qu'elle a incarnée dans son engagement.
Souleymane Bachir Diagne, professeur de littérature à l'Université de Columbia.
Vous écoutez Le Monde d'aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Claire Morin-Gibourg et Gabi Dorcil en votre compagnie.
Place maintenant au journal de la Coupe du Monde. La fête a pris fin au Brésil. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier numéro du journal de la Coupe du Monde. Oui, Brésil 2014, Chérubin, c'est bien terminé. L'Allemagne a décroché hier sa quatrième Coupe du Monde en battant l'Argentine de Lionel Messi. 1-0 durant les prolongations, c'était au Maracanã, c'est comme ça on prononce ?
Le Maracanã.
Maracanã, à Rio. Donc, grâce à un but de Götze à la 113e minute de la National Mannschaft, donc succède à l'Espagne. L'Espagne renvoie dès le premier tour. Écoutons la réaction des supporters allemands recueillis par notre envoyé spécial Nicolas Pino.
C'est incroyable, c'est super, c'est sûrement le plus beau jour de ma vie. C'est une autre année, je n'arrive pas à y croire. Je suis au Brésil, on a la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe du monde. Incroyable, incroyable. Au début, je n'y croyais pas, je me sens trop bien, je ne peux même pas le décrire.
Voilà, je me sens trop bien, je ne peux pas le décrire, la joie des supporters allemands. Mais Chérubin, le match n'a pas été facile car il fallait aussi compter avec l'Argentine de Lionel Messi. L'Allemagne égale donc l'Italie au nombre des sacres mondiaux, 4 au total, à une longueur donc du Brésil. Votre Brésil qui est quand même qui a déçu. Hein?
Oui, 10 buts en 2 matchs, 7 face à l'Allemagne et 3 face à la Hollande. On n'a pas vraiment reconnu cette équipe brésilienne, Bagassi. Il faudra recommencer à zéro.
Et en tant qu'Africain, c'est quand même, on n'a pas grand-chose à regretter. Hein, parce que vu 10 buts en 2 matchs, c'est un record. Et donc, l'Argentine reste donc sur 2 Coupes du Monde, celle de 78 et 86. Et son capitaine Lionel Messi qui manque donc l'occasion de rattraper Diego Maradona comme l'idole donc du football. Everybody put your flags in the sky and do what you feel. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. Alors, si on parlait du Brésil, hein, samedi lors de la petite finale, la Seleção qui espérait se racheter après sa débâcle face à l'Allemagne 7-1 lors des demi-finales, eh bien cette Seleção a subi une nouvelle raclée face aux Pays-Bas de Robben, 3-0. Guenoror est sélectionneur du MENA du Niger. Ce soir, il explique en tant que technicien cette débâcle brésilienne.
Ben, le Brésil, il a perdu pied. Il avait du mal à trouver son jeu depuis le début. Ça a été difficile déjà pour arriver en demi-finale. Et après, il y avait, à mon avis, une trop grande émotivité dans cette équipe. C'était pathétique à voir. On pleurait quand on gagnait, on pleurait quand on perdait, on pleurait quand il y avait un blessé. Il y avait tout le temps de l'émotion, des larmes. Ils se sont mis une trop grande pression. Ils n'ont pas su garder leur lucidité, leur sang-froid, parce que c'est tous quand même des grands joueurs. Mais ils ont perdu pied en équipe. Je crois aussi qu'il y avait un problème peut-être de staff, parce que ce n'est pas normal que cette équipe du Brésil puisse pas jouer en équipe. Chacun a joué sa partition et ça n'a pas du tout été collectif. On était très déçus pour le Brésil et puis la déconvenue contre l'Allemagne, ça a été une véritable déroute. Et puis le 3-0 ensuite pour la troisième place contre les Pays-Bas, ça a été une suite logique.
Voilà, c'était donc Guenoror, le sélectionneur du MENA du Niger. Et dans son coup de sifflet, son dernier coup de sifflet donc de ce mondial, notre consultant Jules Valentin Ngoué, il revient sur ce Brésil qui a raté complètement son mondial. We celebrate the best African
football. No wahala, fair play. Bonjour. Dans les années 70-80, au plus fort des années fétiches du football panache du Brésil, la Seleção retenait pour son équipe nationale 300 joueurs en première présélection, avant de ramener le nombre à 80, puis à 40 et enfin à 23. Les talents créatifs abondaient et les sélectionneurs avaient du mal à identifier les meilleurs parmi les meilleurs, au point que la mythique équipe de 1970 comptait en son sein, en même temps, les 5 meilleurs numéros 10 du championnat national du moment, Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino et Paulo César Lima, ce qui permettait à Mario Zagallo, l'entraîneur, dosait toutes les audaces tactiques imaginables. Or, la défaite du Brésil dans la petite finale de samedi a, faute de provoquer un cataclysme social permis même aux plus inconditionnels de faire l'état des lieux. À force de flirter avec les valeurs contre nature du football européen, le Brésil a tari la source de ses talents géniaux. Les entraîneurs les plus controversés du pays, Scolari et Pereira, du haut de leur piédestal de champion du monde et des confédérations, ont préféré amener en compétition une équipe en construction plutôt que de miser sur l'expérience. La suite, on la connaît. Le Brésil a vu le calice jusqu'à la lie. La nette victoire des Hollandais pour la troisième place véhicule donc un message clair pour le Brésil. Il faut se remettre au travail et réinscrire une nouvelle histoire à l'image de l'Allemagne, champion du monde 2014, 24 ans après, sur les terres du Brésil. Au revoir et à bientôt.
À bientôt, Jules. Vous l'avez entendu, hein, peut-être une nouvelle ère va devoir s'ouvrir pour le Brésil, Chirouin.
Et ça va devoir commencer, je crois, Bagassi, dans les écoles de foot à Rio, à São Paulo, à Fortaleza, partout au Brésil.
Et la présidente brésilienne Dilma Rousseff a été copieusement sifflée à chacune de ses apparitions sur les écrans géants du stade de Maracanã à Rio hier soir lors de la remise du trophée à l'Allemagne. Lionel Messi, capitaine de l'équipe d'Argentine, battu par donc l'Allemagne 1-0 en finale, a été élu ballon d'or du Mondial 2014. Et beaucoup de gens, Chirouben, ne sont pas trop d'accord. Et même le président de la FIFA, Sepp Blatter, a dit qu'il ne comprend pas pourquoi on a dû choisir Sepp Blatter.
Mon problème à moi, c'est le choix du meilleur gardien, le gardien allemand. Je crois que le gardien du Costa Rica méritait ce prix.
Bon, ça c'est un autre débat. Donc Manuel Neuer, portier donc de l'Allemagne, a été sacré champion donc du monde, a été désigné comme le gant d'or, c'est comme ça qu'on les appelle, du Mondial 2014. Sergio Romero de l'Argentine et Keylor Navas du Costa Rica étaient les autres nominés.
On n'a pas parlé de Tim Howard?
Comment?
Tim Howard, le gardien américain.
Oui, ou bien Vincent Enyama. Moi, je suis surpris qu'il ne figure pas parmi...
Le gardien du Nigeria,
ouais.
Qui est très bon.
Qui est très bon. On va revenir sur tous ces joueurs lors de Sporama dans quelques 3 minutes. Et on va faire le bilan avec nos invités, notre envoyé spécial. C'est tout donc, Chirubin.
Notre envoyé spécial, bien sûr, Nicolas Pinault, qui a couvert cette Coupe du Monde au Brésil. Merci, Bagassi Koura. C'est presque la fin de cette édition. Le dernier mot sera, comme d'habitude, à Roger Montou, notre pilote, ou Monsieur Musique, comme j'aime à l'appeler. Alors, tu nous réserves quoi?
Salut Gabi. Ben effectivement, hein, je vous réserve de la bonne musique. Cela fait déjà 7 longues semaines qu'Iggy Azalea fait danser la planète entière grâce à son tube Fancy en duo avec Charlie XCX. Une longévité hein, qui lui permet presque de faire de l'ombre à Lorde et Rihanna. En effet, la jolie Australienne est sur le point de battre le record du titre qui est resté le plus longtemps numéro 1 au Billboard Hot 100. On écoute Fancy. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight. Never chase that. Never. Stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Hot to blow. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. Can't stand no haters. And honest, the truth is in my flow, in my fetish, be did the party. I'm stupid, I can't shop in no department and get my money on time. If they got money, decline. That's where I meant that day so much that I get that line and rewind. To get my money on time. If they got money, decline. I just can't worry about no haters. Gotta stay on my grind. Now tell me who that, who that? They do that, do that. Put that paper over all. I thought you knew that. I'd be the I, G-G-Y. Put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw.
Merci beaucoup à Roger Muntou.
Oui, et nous devons remercier Michel Joseph qui a assuré la mise en onde. assisté de notre ami Zorniak à la console technique.
Merci Gabi.
Écrivez-nous sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous dans une demi-heure.